Note 9. La liturgie, les iambes et les trochées, la main de Pierre. Le jour était clair et triomphal. C'était un de ces jours qui vous font oublier vos faiblesses, vos imprécisions, vos maladies. Tout devient cristallin, inflexible, éternel, comme notre nouveau verre. Sur la place du cube, on avait disposé 66 cercles concentriques, les tribunes. Sur ces 66 rangs, l'épanouissement des visages et le bleu des yeux reflétaient l'éclat du ciel, à moins que ce ne fût l'éclat de l'état unique. Les lèvres des femmes étaient rouges sang comme des fleurs. Des rangées d'enfants, semblables à de douces guirlandes, se pressaient autour du centre. Il régnait un calme profond, sévère, gothique. D'après les récits parvenus jusqu'à nous, les anciens éprouvaient des sentiments semblables lors de leurs services religieux. Mais eux, ils servaient un Dieu inconnu et absurde, tandis que nous, nous servons un Dieu sensé et parfaitement connu. Leur Dieu ne leur donnait rien, si ce n'est des inquiétudes éternelles, tandis que le nôtre nous a donné la vérité absolue. Il nous a délivrés de toute inquiétude. Leur Dieu n'avait rien trouvé de mieux que de s'offrir lui-même en sacrifice. On ne sait pourquoi, tandis que nous apportons au nôtre, à l'état unique, un sacrifice paisible, réfléchi et raisonnable. Oui, c'était bien une liturgie solennelle à la gloire de l'état unique que cette commémoration de la guerre de 200 ans, de la victoire grandiose remportée par tous sur un seul, par le collectif, sur l'individualité. Séparée des autres, cette individualité se tenait sur les marches du cube tout éclairé de soleil. Il avait un visage blanc, ou plutôt non, un visage sans couleur, de vert, et ses lèvres avaient également l'aspect du vert. Seuls ses yeux noirs brillaient, dévorant tout. Il semblait des abîmes ouverts sur le monde trouble, inconnu, dont il n'était plus éloigné que de quelques minutes. Sa plaque d'or, portant son numéro, lui avait déjà été retirée, et ses mains étaient attachées par un ruban pourpre. C'était une coutume ancienne, s'expliquant probablement par le fait qu'autrefois tout ceci n'était pas accompli au nom de l'État unique, et par conséquent, les condamnés se sentaient le droit de résister. Aussi devait-on leur charger les mains de lourdes chaînes. Au-dessus, sur le cube, près de la machine, se tenait la silhouette métallique de celui que nous appelons le bienfaiteur. D'où j'étais, d'en bas, on ne pouvait distinguer son visage. On remarquait seulement qu'il était marqué de lignes sévères et carrées qui lui donnaient un air de grandeur. Mais par contre, ses mains... Il arrive quelquefois que, sur les photographies, les mains soient énormes, parce que trop proches de l'objectif. Elles attirent le regard, obstruent tout. Les mains du bienfaiteur sont lourdes, elles sont de pierre, et leur poids à peine supporté par les genoux sur lesquels elles reposent. Soudain, une de ces mains énormes se leva lentement, en un geste d'acier. Obéissant à ce geste, un numéro se leva des tribunes et s'approcha du cube. C'était un des poètes de l'État qui, par un sort heureux, avait été désigné pour couronner cette fête de ses vers. Des iambes divins et cuivrés résonnèrent au-dessus des tribunes, racontant la vie de l'insensé qui se tenait là sur les marches, attendant la conséquence logique de sa folie.